Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Nasser Moussaoui. Dernier épisode de notre série consacrée à l'énergie du futur. Après avoir cherché comment réduire en même temps l'empreinte carbone de nos logements et nos factures d'électricité, après avoir envisagé le gaz naturel comme une énergie de transition, nous pénétrons dans les laboratoires où s'inventent les technologies de demain. Et c'est un petit atome qui suscite tous les espoirs, l'hydrogène. Il agite les rêves des écologistes et des industriels. Les milliards pleuvent et les premiers doutes émergent. L'hydrogène est-il un miracle ou un mirage? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous intéresser au nouveau marché de l'hydrogène en compagnie de Christian de Pertuis, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire économie du climat. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho présenté par Xavier Martinet.
Mais que signifie être préparé? Si l'ère des combustibles fossiles touche à sa fin, sur quel avenir s'ouvre-t-elle? En fait, nous nous trouvons à l'aube d'un nouveau régime énergétique fondé sur une énergie qui est aussi différente des combustibles fossiles que ceux-ci l'étaient du bois de chauffage. L'hydrogène est l'élément le plus léger, le plus simple et le plus répandu dans l'univers. Exploité sous forme d'énergie, il devient combustible éternel. Inépuisable, il est aussi non polluant puisqu'il ne contient pas un seul atome de carbone. On le trouve dans tous les milieux, solides ou liquides, et il entre dans la composition des combustibles fossiles et des êtres vivants. Il n'existe toutefois que rarement à l'état pur et doit être extrait de sources naturelles. Les fondations de ce que nous pouvons appeler l'économie hydrogène sont déjà là, sous nos yeux. Au cours des prochaines années, la révolution de l'hydrogène va se fondre dans la révolution de l'ordinateur et des télécommunications pour donner naissance à un alliage puissant, susceptible de transformer de fond en comble les relations humaines au cours du 21e et du 22e siècle. Dans la mesure où l'hydrogène est universellement répandu et inépuisable, l'exploitation judicieuse de cette ressource permet d'envisager à terme l'émancipation de chaque être humain, inaugurant ainsi le premier régime énergétique véritablement démocratique de l'histoire humaine.
Bonjour Christian de Pertuis.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait de l'économie de l'hydrogène de Jeremy Rifkin, paru en 2002. C'est un essai qui a largement contribué à créer cette effervescence autour de l'hydrogène.
Je pense que l'ouvrage de Jeremy Rifkin a effectivement popularisé la notion même d'hydrogène comme vecteur énergétique. Mais comme pas mal d'ouvrages de Jeremy Rifkin, il y a une croyance forte et tous les éléments des difficultés pour arriver à réaliser la croyance et le rêve ne sont pas toujours réunis. Donc aujourd'hui, je crois que on est effectivement à un point de bascule. Et on est à un point de bascule, non pas parce que l'hydrogène est partout, mais parce que les moyens d'aller chercher cet hydrogène pour le réutiliser dans le système énergétique commencent à devenir envisageables.
Alors on va évidemment parler des difficultés qui sont soulevées aujourd'hui, mais d'abord expliquez-nous, Christian de Pertuis, ce qu'est l'hydrogène. Il faut dire donc, comme l'expliquait Jeremy Rifkin, que c'est l'élément le plus abondant de l'univers.
Absolument, l'hydrogène, bon, d'abord c'est le gaz le plus léger, hein, c'est la première case du tableau chimique de Mendeleïev. Et en gros, dans le Soleil, vous avez 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Et c'est la fusion de l'hydrogène et de l'hélium qui fabrique l'énergie solaire. Donc toute l'énergie solaire qui arrive sur la Terre est en réalité issue de l'hydrogène. L'hydrogène à l'état naturel, il en existe probablement en assez grande quantité sous la couche terrestre, sous les costes terrestres, mais il n'y a que très peu d'hydrogène directement utilisable. Il y a très peu d'hydrogène dans l'atmosphère, tout simplement parce qu'il est tellement léger qu'il part en l'air. Et il y a très peu de réservoirs souterrains où on pourrait directement aller chercher l'hydrogène, comme on va par exemple rechercher le gaz naturel ou le pétrole. Donc la question clé pour l'hydrogène, c'est comment aller chercher cette molécule pour la réutiliser. On peut peut-être dire deux mots sur les usages actuels de l'hydrogène, d'où il vient.
Allez-y, je vous en prie.
Aujourd'hui, on produit dans le monde environ 60 millions de tonnes d'hydrogène. 95% de cet hydrogène est un sous-produit des énergies fossiles, soit la gazification du charbon, soit le prélèvement de l'hydrogène dans le gaz naturel ou dans le pétrole en raffinerie.
Donc l'hydrogène n'est pas nécessairement énergie renouvelable, ça dépend de la façon qu'on a de la produire.
Aujourd'hui, à 95%, l'hydrogène utilisé dans le monde provient des énergies fossiles et c'est à l'origine d'un peu plus de 800 millions de tonnes d'émissions de CO2, c'est-à-dire 2,5 fois les émissions de la France. En France, on produit chaque année un peu moins de 1 million de tonnes d'hydrogène. 95% est également produit à partir d'énergies fossiles. Et ça représente à peu près 3,5% de nos émissions de CO2. Donc aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas un vecteur énergétique propre. Aujourd'hui, l'hydrogène est un coproduit ou un sous-produit des énergies fossiles. Les usages actuels de l'hydrogène sont, pour leur très grande majorité, soit utilisé en raffinerie pour désulfurer le pétrole, soit pour produire la synthèse de l'ammoniac et produire des engrais. Et il y a très peu, à l'heure actuelle encore, d'hydrogène qui est utilisé pour produire de l'énergie. Donc, ce qui est complètement nouveau dans les perspectives de l'hydrogène vert, c'est deux choses. La première, aller chercher de l'hydrogène avec des voies non carbonées, on va y venir. Et la deuxième, c'est utiliser à la fin de la chaîne, cet hydrogène dans des nouveaux usages énergétiques, par exemple pour faire rouler des voitures, naviguer des bateaux, peut-être demain faire voler des avions, et surtout avec des applications peut-être tout à fait nouvelles dans les grands secteurs industriels très émetteurs de CO2, notamment la sidérurgie et la production d'acier.
Alors on va voir quels sont ces défis auxquels sont confrontés les industriels qui s'intéressent à l'hydrogène aujourd'hui. Mais d'abord, il faut dire que l'hydrogène a été largement utilisé dans l'histoire comme gaz pour gonfler les dirigeables jusqu'à l'accident d'une Hindenburg, le géant des airs allemands, qui prend feu le 6 mai 1937 dans l'état du New Jersey aux États-Unis.
Le 6 mai 1937, le zeppelin Hindenburg, dernier né de la technique aéronautique allemande, effectue son voyage inaugural Francfort-New York. Cet énorme vaisseau de l'espace aux couleurs argentées est fait pour transporter 100 passagers et 17 tonnes de bagages et de courrier. Le zeppelin avance lentement sur New York. On dirait parfois qu'il reste sur place. C'est une tranquille progression au-dessus de la mer. Voici la base de Lakehurst, New Jersey, terme de son voyage. Il coule doucement vers son mât d'amarrage où l'attendent les personnalités officielles et les photographes. Voilà, il a suffi de 30 secondes pour que cet orgueil de la technique allemande ne soit plus qu'un amas de poutre tordue. Lorsque le zeppelin chargé d'électricité statique accumulée au cours du voyage a touché le mât d'amarrage, une étincelle s'est produite enflammant les milliers de mètres cubes d'hydrogène qui constituaient l'élément porteur de l'appareil. Malgré les apparences, 64 personnes réussiront à être sauvées sur la centaine qui avaient participé à cette tragique odyssée.
Un extrait d'une émission de l'ORTF diffusée le 6 mai 1965. L'hydrogène a connu plusieurs vies, Christian de Pertuis, avant d'apparaître comme l'énergie propre de demain.
Absolument. Alors, dans les dirigeables, l'hydrogène n'était pas utilisé comme source d'énergie, mais comme un gaz qui permettait de monter le dirigeable. L'accident de 1936 est extrêmement intéressant parce que il montre l'une des grandes difficultés d'utilisation de l'hydrogène, à savoir son stockage. Ce qui a produit l'incendie, c'est une fuite de l'hydrogène. Et l'hydrogène est un gaz qui est extrêmement difficile à stocker ou à transporter parce qu'il est très léger. Et donc, si on veut le stocker dans un espace raisonnable, il faut avoir des réservoirs qui le compriment très fortement. Et ces réservoirs posent des problèmes industriels importants et notamment, ils sont lourds. Et donc, si vous voulez avoir beaucoup d'hydrogène dans un espace réduit, eh bien, vous êtes obligé de mettre des réservoirs très, très, très costauds et ceci pèse.
Dès les années 70, l'hydrogène est envisagé comme une alternative au pétrole, mais ensuite, il va falloir attendre plusieurs décennies pour que les projets se concrétisent.
Absolument. Les premiers projets opérationnels sont dans l'industrie spatiale. La NASA, dans les premiers vaisseaux spatiaux, utilisait des piles à combustible pour produire l'électricité à l'intérieur des satellites habités. Depuis, on utilise des panneaux photovoltaïques parce que c'est moins cher. Il y a une autre utilisation de l'hydrogène énergie dans l'industrie spatiale, c'est pour faire démarrer les fusées. Ariane 5 et Ariane 6 ont des moteurs propulsés à l'hydrogène, car vous avez une puissance beaucoup plus forte au démarrage, mais ça coûte très cher de faire. Donc aujourd'hui, les applications de l'hydrogène sont encore très marginales. Elles commencent à apparaître dans la mobilité. Et vous voyez bien que dans la mobilité, on a un facteur très important sur les voitures électriques, c'est l'autonomie de la batterie. L'hydrogène, lui, il fabrique l'électricité embarquée avec une pile à combustible. Et donc, on peut, avec 5 kg d'hydrogène, faire rouler un véhicule pendant 500-600 km, un peu plus. Donc ça, c'est un atout de l'hydrogène. Demain, vraisemblablement, on pourra utiliser le même procédé pour faire bouger d'autres objets. Des bus, c'est déjà le cas aujourd'hui, des camions, c'est un énorme problème de la mobilité de faire circuler des camions sans CO2, des bateaux et probablement des avions.
Alors justement, comment est produit cet hydrogène vert qui est obtenu, donc vous l'avez dit, Christian de Pertuis, à partir d'énergies renouvelables, et cela grâce à la technique de l'électrolyse. Écoutez les explications de Pierre-Étienne Franc, il est directeur des nouveaux marchés et des technologies avancées chez Air Liquide, le plus gros vendeur d'hydrogène en France.
La méthode qui fait que l'hydrogène devient probablement l'un des éléments clés de la transition énergétique, c'est de casser la molécule d'eau. Et là, on passe à l'électrolyse, qui est une technologie que à peu près tous ceux qui sont passés par le lycée ont dû tester eux-mêmes sur une paillasse. On fait réagir dans une solution aqueuse avec un électrolyte. On passe un courant. D'un côté, il y a une sorte d'oxygène, de l'autre, une sorte de l'hydrogène. On a cassé la molécule. C'est beaucoup plus énergétique, donc c'est moins efficace que casser une molécule de gaz naturel. Les coûts d'investissement sont aujourd'hui trop élevés, mais c'est le moyen ultime et probablement principal demain de stocker en masse, pour de grandes quantités et pour de grosses puissances, de l'énergie intermittente qui nous sera fournie de plus en plus par le renouvelable.
Christian de Pertuis, ce que l'on comprend, c'est qu'il est possible donc de produire de l'hydrogène neutre en carbone, mais le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher.
Oui, alors, l'électrolyse est l'une des façons de produire de l'hydrogène vert. Il y a une autre façon qui est d'utiliser de la biomasse. Et donc, on peut aussi produire de l'hydrogène vert à partir de la biomasse renouvelable. Mais aujourd'hui, de très loin, le premier procédé qui est en cours de développement, c'est celui par électrolyse. Ce procédé, il est connu depuis très longtemps. Parce que l'électrolyse de l'eau, c'est quelque chose qui est bien connu. Son rendement énergétique était jusqu'à un passé récent assez faible. C'est la raison pour laquelle le coût de l'hydrogène à la sortie était élevé.
Il y avait trop de déperditions, c'est ça ?
Absolument. Et donc aujourd'hui, il y a une compétition internationale extrêmement féroce, extrêmement importante sur les filières d'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert. Vous avez trois familles d'hydrolyseurs, sans rentrer dans les détails. Et dans cette compétition, les industriels français ne sont pas si mal placés. Air Liquide, évidemment, a fait un petit effort, mais je rappelle qu'Air Liquide est d'abord un producteur d'hydrogène gris avant d'être un producteur d'hydrogène vert. Des start-up ont pénétré ce marché, notamment des sociétés comme McPhee, par exemple, aujourd'hui sont véritablement leaders sur les électrolyseurs verts.
Et pour bien comprendre comment cela fonctionne, Christian de Pertuis,
c'est très simple.
C'est l'un des grands avantages de cet hydrogène décarboné, c'est qu'il permet de stocker des énergies intermittentes comme l'énergie solaire ou l'éolien. L'un des grands enjeux ?
C'est très simple. D'abord, il permet de produire de l'hydrogène sans CO2. Ça, c'est sa première vertu. La deuxième vertu, c'est lorsque vous le connectez à, par exemple, une ferme éolienne ou à des panneaux photovoltaïques, vous pouvez en permanence soit utiliser l'électricité verte directement, soit la convertir en hydrogène. Et une fois que vous avez l'hydrogène est stockable. Et ensuite, vous allez réutiliser à la fin de la chaîne, cet hydrogène comme source d'énergie, par une réaction qui est pratiquement l'inverse de l'hydrolyse. L'hydrolyse, vous mettez de l'électricité et de l'eau, vous obtenez de l'hydrogène, une pile à combustible, vous faites l'inverse. Vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène et vous obtenez du H2O qui sort de votre véhicule à hydrogène et qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, véritablement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hydrogène, sa vertu, vient de ce qu'il arrive comme une sorte d'intégrateur à l'intérieur du système énergétique. Il permet d'intégrer beaucoup plus facilement des sources d'énergie renouvelable intermittentes avec des besoins énergétiques finaux qui sont multiples dans la mobilité, peut-être dans le chauffage de main et dans l'industrie.
Et c'est en cela qu'il est considéré comme le chaînon manquant qui permet d'atteindre des systèmes énergétiques 100% renouvelables ?
Attention, il n'est pas le seul vecteur. On va avoir une compétition sur le stockage des énergies renouvelables demain. Par exemple, l'hydrogène va rentrer en compétition avec les batteries. Et vous voyez bien aujourd'hui que la messe n'est pas dite. Car le coût des batteries diminue également fortement. Le coût de l'hydrolyse de l'hydrogène a baissé d'environ 60% sur la dernière décennie. On anticipe qu'il va encore baisser de 10%. Et la baisse des coûts va dépendre également du prix des énergies renouvelables. Donc, dans l'équation, il faut tenir compte du prix de l'électricité renouvelable, de la baisse des coûts de l'hydrolyse qui provient essentiellement des économies d'échelle et des compétitions d'autres sources renouvelables et d'autres modes de stockage. C'est pour ça qu'on est véritablement dans une phase extrêmement intéressante où différentes options sont sur la table et bien malin sera celui qui peut dire aujourd'hui qui va gagner.
On l'a dit, produire de l'hydrogène vert coûte aujourd'hui plus cher que de produire de l'hydrogène gris ou noir, 4 fois plus cher, je crois. Il faudrait déployer les électrolyseurs de façon massive pour faire des économies d'échelle, justement, Christian de Pertuis, pour abaisser les coûts de l'hydrogène vert.
Oui, alors, peut-être pour être un tout petit peu plus précis, sur le coût de l'hydrogène gris aujourd'hui, on est dans une zone de environ 1,50 € par kilogramme. Si vous mettez de la capture et du stockage de CO2 derrière cet hydrogène gris, vous montez à 2 à 2,5 euros par kilogramme.
Et dans ce cas-là, on parle d'hydrogène bleu, c'est ça? Il y a toute une palette de couleurs.
Et l'hydrogène vert, lui, il est plutôt entre 3 et 5. Il y aurait une façon très simple de rentabiliser plus vite l'hydrogène vert. Et cette façon, elle est bien connue des économistes. Ce serait de taxer le CO2. Puisque lorsque vous produisez 1 kg d'hydrogène gris, vous émettez environ 10 kg de CO2. Et donc avec un prix du CO2 de 100 € la tonne de CO2, pratiquement vous rendez aujourd'hui compétitif l'hydrogène vert pour les procédés les plus favorables, et vous rendez compétitif l'hydrogène bleu. Mmh. Donc vous voyez bien que les questions de compétitivité sont aussi beaucoup liées aux politiques qui sont menées. L'autre point très important, c'est que pour baisser le coût de l'hydrogène vert, il y a 2 leviers. Le premier levier, c'est la baisse du coût de l'électricité renouvelable. Vous voyez bien que l'un des grands boosters aujourd'hui d'hydrogène, c'est l'incroyable baisse du coût de l'électricité renouvelable, et notamment photovoltaïque. Mmh. Puisque aujourd'hui, dans le monde, l'électricité photovoltaïque tend à devenir le mode de production le moins coûteux pour produire de l'électricité. L'autre volet, c'est la baisse du coût des matériels d'électrolyse, des électrolyseurs. Et là, je dirais qu'il y a un peu deux composantes très importantes. Il y a l'échelle de production. On est encore sur des tout petits marchés. Lorsqu'on accroît l'échelle de production, eh bien, on fait baisser les coûts. Mmh. Et puis, il y a le rendement des catalyseurs, qui n'est pas uniquement l'échelle de production, mais qui est l'efficacité de la transformation. Et on voit bien que l'hydrogène, depuis très longtemps, traîne un problème d'efficacité, parce que c'est pas très efficace de commencer à avoir une molécule, de la casser pour faire de l'électricité, et de refaire de l'électricité au bout. Vous voyez, bon, donc y a un problème de technique très, très pointue, et il y a des procédés aujourd'hui qui permettent d'accentuer l'efficacité des hydrolyseurs, par exemple, faire de l'hydrolyse à haute température.
Il y a beaucoup de recherches, c'est ce que je voulais vous demander, Christian de Pertuis, sur justement, effectivement, les réponses qu'on pourrait apporter à ces deux problèmes, les pertes d'électricité tout au long de la chaîne, mais aussi les risques que représente ce gaz, qui est tout de même assez inflammable.
Ah oui, alors, les risques du gaz inflammable sont essentiellement des risques liés au stockage et au transport. Ce sont des coûts additionnels. Et on sait que la sécurité a un coût. La sécurité a un coût en matière énergétique. Le meilleur exemple, c'est probablement le nucléaire. On voit qu'aujourd'hui, c'est devenu horriblement coûteux de produire de l'électricité nucléaire parce que la sécurité a un coût. Dans une raffinerie, la sécurité a un coût. Et sur l'hydrogène, il y a effectivement un coût qui est élevé sur tout ce qui concerne le transport et le stockage. Un réservoir d'hydrogène, c'est beaucoup plus coûteux à manier qu'un réservoir de gaz naturel, par exemple. Et on voit bien que si on n'est pas très vigilant sur ces questions de sécurité, on risque d'avoir des effets boomerang terribles, hein, puisque dans l'audition qu'on avait tout à l'heure, on voit bien que les dirigeables à hydrogène ont disparu le jour d'un accident.
Alors, de nombreux États et entreprises se sont lancés dans cette course à l'hydrogène vert. La compétition s'annonce rude. On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world. People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars as the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, we'll lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marginal world. Changing. Open up your eyes, you can see things are going ranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying. People trapped behind the gates, ignorance in the state of mind, cause they formulate a plan just to penetrate us. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up, cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest, fucking up our air for us. They don't really care for us. And we can't complain, because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out.
SOS, Mother Nature de Will.i.am sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes en compagnie de l'économiste du climat, Christian de Pertuis. Et nous parlons de la course à l'hydrogène, ce vecteur d'énergie présenté par certains comme le nouveau pétrole. Alors de plus en plus de pays misent sur l'hydrogène décarboné, vu comme une opportunité industrielle et un moyen de réduire les émissions de CO2. Au début du mois de juillet, Bruxelles a présenté une feuille de route ambitieuse. C'est un plan qui était très attendu, Christian de Pertuis ?
Absolument. Ça fait des années que tout le monde est dans les starting blocks et attend que la Commission bouge. Là, la Commission a bougé et de façon quand même très ambitieuse, hein, puisque les objectifs sont véritablement des objectifs de rupture et d'accélération d'une composante importante de la transition énergétique, qui est la substitution des sources fossiles par des sources renouvelables.
Et alors, par quoi ça passe ce plan ? Est-ce que c'est avant tout un investissement dans des infrastructures ?
Alors, vous avez plusieurs composantes. La composante, je crois, la plus importante, c'est celle de passer de pilote à l'échelle industrielle. Et vous savez que en économie de l'innovation, vous avez un peu trois grands stades. Vous avez la recherche et développement, vous avez les pilotes, et puis vous avez le déploiement industriel. Et en Europe, et particulièrement en France, on a beaucoup de peine à passer de ce niveau de la recherche et développement aux pilotes, et encore plus des pilotes à l'échelle industrielle. Et donc, le plan hydrogène de la Commission vise dans un premier temps à mettre le paquet sur l'accroissement de l'échelle de production de l'hydrogène à partir de l'hydrolyse, et de pouvoir rapidement construire des filières d'offres qui passe à l'échelle industrielle. Et si on ne le fait pas rapidement, d'autres le feront à notre place. Car nous ne sommes pas les seuls à travailler sur l'hydrogène, même si l'Europe a comme elle avait au démarrage du reste sur l'énergie solaire beaucoup fait de recherche et développement, il y a des concurrents dans le monde, il y a des concurrents en Chine, il y a des concurrents en Corée, il y a des concurrents au Japon, et il va y avoir une bataille sur la maîtrise de ces systèmes de production.
C'est effectivement la Chine qui produit aujourd'hui les électrolyseurs les moins chers, question de pertuis, et oui. L'Europe voudrait produire peut-être les plus efficaces ou les plus écologiques.
Alors il y a un peu, là on rentre dans un débat d'experts, mais il y a la filière alcaline et puis d'autres filières sur les électrolyseurs alcalins qui, on va dire, l'électrolyseur standard, hein. J'ose pas dire bas de gamme car ce serait un peu dédaigneux vis-à-vis des Chinois, les Chinois produisent beaucoup moins cher. Par contre, sur les électrolyseurs qui fonctionnent à protons, ou qui sont une technologie beaucoup plus avancée, là, l'Europe tient la corde. Sur l'électrolyse à haute température, l'Europe tient la corde. Donc, nous avons des atouts. Mais ces atouts en sont encore au stade du pilote. Et il faut passer du pilote à l'échelle industrielle. Et c'est ça que veut promouvoir la Commission dans sa première phase de développement qui va de 2020 à 2024, en finançant très largement tout ce qui permet de déployer des pilotes et de déployer des solutions intégrées entre différents acteurs.
La Commission européenne prévoit que l'hydrogène représente 14% de la consommation finale d'énergie en Europe d'ici à 2050, contre moins de 2% aujourd'hui. C'est un objectif atteignable ?
Vous savez, les pourcentages de consommation d'énergie finale par vecteur énergétique en 2050, je m'aventurerai pas sur la question.
Si à 30 ans, c'est compliqué.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, il y a 15 ans, personne n'imaginait le déploiement de l'énergie photovoltaïque qu'on a observé. Hein. Donc, l'histoire de l'énergie est à la fois faite d'incroyables inerties. Hein, c'est très long de changer un système énergétique parce que c'est très inerte. Et en même temps, d'innovations de rupture que, généralement, on voit pas tellement venir.
C'est l'Allemagne qui s'est engouffrée la première dans ce marché européen. Qu'est-ce qui explique ce choix de l'hydrogène outre-Rhin, Christian de Pertuis ?
Ah ben c'est très clair. Si vous voulez, regardez le mix énergétique de l'Allemagne et comparez le mix énergétique de l'Allemagne à celui de la France. L'Allemagne mise dans sa transition énergétique d'abord sur le développement des énergies renouvelables et donc le rythme du déploiement des énergies éoliennes et même solaires est beaucoup plus rapide qu'en France, alors que les ressources en soleil sont, au moins sur la partie méridionale, bien plus importantes en France qu'en Allemagne. L'Allemagne a fait ce choix. Elle a fait le choix de renoncer au nucléaire. Donc elle a fait un choix assez antagoniste avec le choix français. Et donc les problèmes d'intégration des sources renouvelables dans le système énergétique se posent beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Comment est-ce qu'on peut les régler ? On peut les régler d'abord en faisant des infrastructures lourdes de transport de l'électricité. C'est l'un des piliers importants de la transition allemande. En gérant mieux la demande et en gérant l'efficacité énergétique. Et puis là, l'hydrogène apporte une solution extrêmement intéressante à mesure que le poids des sources intermittentes augmente dans le système énergétique, puisque, comme on l'a dit, hein, l'hydrogène vert permet également de stocker cette énergie renouvelable en convertissant en stock d'hydrogène tous les surplus d'énergie verte produite lorsqu'on n'en a pas besoin par ailleurs.
Est-ce que les pays qui sont le mieux positionnés pour développer l'hydrogène sont ceux qui, comme vous le dites, sont déjà avancés en matière d'énergie renouvelable ? Je pense particulièrement à la Norvège qui a 96% de son électricité qui est d'origine hydroélectrique.
Alors, je connais pas très bien le cas de la Norvège, mais je crois qu'effectivement, parmi les producteurs d'hydrolyseurs verts, la Norvège tient la corde. Le cas de la Suède est très intéressant, puisque dans le cadre du projet Hydrit, la chaîne déploie même plus pas parler de pilote, mais vraiment un système industriel permettant de produire demain de l'acier sans émettre du CO2 en utilisant directement le vecteur énergétique hydrogène pour réduire le minerai de fer. C'est un point très important. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative technologique pour produire de l'acier primaire sans CO2, puisque les hauts fourneaux émettent du CO2, puisqu'on utilise le gaz de coque comme réducteur du minerai.
Or, l'acier, c'est un très fort émetteur de CO2
dans l'acier, le monde. Et l'acier est, avec le ciment, de très loin, le principal émetteur de l'industrie mondiale. Vous avez à peu près 70% des émissions du secteur industriel qui proviennent de l'acier et du ciment à peu près à part égale. Et c'est important parce que demain, on continuera à avoir besoin d'acier. Si on veut développer les pays les moins avancés, on va avoir besoin d'acier. On n'urbanise pas des pays moins avancés sans acier. Et si on n'est pas capable de produire cet acier bas carbone, eh bien, le développement continuera à être synonyme d'augmentation des émissions de CO2.
Avant d'en venir à la France, Christian de Pertuis, allons faire un tour du côté de l'Asie du Sud-Est, puisque la Corée du Sud est un pionnier de l'hydrogène. Le premier véhicule électrique commercial à pile à combustible a été lancé en 2013 par le constructeur sud-coréen Hyundai. Écoutez les témoignages de ses usagers.
Quand j'ai dû changer de voiture, j'ai pris celle-ci car elle utilise une nouvelle énergie. Et l'aide du gouvernement était intéressante. L'État a financé une grande partie de mon véhicule.
J'ai choisi cette voiture car elle n'émet aucune particule fine. Cette pollution est due à l'activité humaine. Je pense que si nous agissons tous ensemble, on peut réduire nos émissions de CO2. Je veux vraiment montrer l'exemple à mes enfants.
Christian de Pertuis, qu'est-ce qui explique le choix précoce de l'hydrogène en Corée du Sud ?
Alors d'abord, le choix est à la fois coréen et japonais, hein, puisque les deux constructeurs automobiles dans le monde qui ont développé des véhicules à hydrogène sont effectivement Hyundai, également Toyota avec la Mirai. Je ne sais pas quel est le premier qui a sorti son véhicule, mais bon. Clairement, ces deux industriels sont motivés par des contraintes de court terme et des contraintes de long terme. Les contraintes de court terme, c'est la pollution locale. Et la première chose qu'a dite l'auditrice coréenne tout à l'heure, c'est mon véhicule n'émet pas de microparticules, il n'émet pas de pollution locale. Car c'est aussi l'un des gros intérêts de l'hydrogène, quelle que soit la façon dont il a été produit, c'est qu'il n'émet pas de pollution locale. Ils ne rejettent que de l'eau. Donc ça, c'est un énorme avantage. Le deuxième point, c'est que dans une perspective de moyen et long terme, effectivement, si on veut continuer à se déplacer en véhicule, eh bien, vous avez deux voies. Vous avez c'est chaque fois de l'électricité. Soit vous amenez l'électricité par des batteries, soit vous amenez l'électricité avec de l'hydrogène embarqué et votre hydrogène produit l'électricité grâce à la pile à combustible. Donc ces deux voies sont testées toutes les deux par les constructeurs coréens et japonais. Et ces deux énormes constructeurs misent à la fois sur l'hydrogène et sur le véhicule électrique. Donc ils ont les deux fers au feu. Le point que je voudrais souligner et qui renvoie à une question plus générale, c'est que on voit bien à travers cet exemple à la fois la force de l'hydrogène et les limites de l'hydrogène. La force, c'est que demain, l'hydrogène permettra d'augmenter le nombre de voitures qui vont circuler sans émettre de CO2 et sans émettre de pollution locale. Mais est-ce qu'il faut continuer à utiliser des véhicules industriels, des véhicules individuels pour se déplacer? Il y a d'autres volets dans la transition énergétique qui sont très importants.
Et certains volets entrent en contradiction les uns avec les autres.
La sobriété énergétique. Et la sobriété énergétique consiste peut-être à utiliser son vélo, peut-être à utiliser les transports en commun, peut-être à moins se déplacer. Et donc, vous voyez bien que la force de l'hydrogène, c'est d'accélérer la substitution énergétique. C'est incontestable. Et de ce point de vue-là, je pense que Jérémy Rifkin, auquel on faisait allusion au début de l'émission, a tout à fait raison. Mais n'écoutons pas trop Jérémy Rifkin lorsqu'il nous dit que l'hydrogène est la solution miracle de la transition bas carbone. Car la transition bas carbone, c'est aussi l'efficacité énergétique. Or, l'hydrogène n'est pas efficace parce qu'il faut le transformer, il faut aller le chercher, il faut casser la molécule d'eau, il faut casser la molécule de gaz naturel, il faut casser la biomasse. On dira peut-être deux mots sur la production d'hydrogène par de la biomasse parce que c'est intéressant. Et donc, ça c'est la deuxième limite. Et la troisième limite, c'est la sobriété énergétique. Si parce qu'on a un véhicule à hydrogène, on roule plus, on va à l'envers des objectifs de la transition énergétique.
Ce qui est intéressant, Christian de Pertuis, avec ce cas sud-coréen, pour en dire encore un mot, c'est le rôle que joue l'État, puisqu'il finance à hauteur de 50% l'acquisition de voitures à pile à combustible. On voit que c'est une industrie qui a besoin d'être extrêmement soutenue par le politique.
Toutes les industries naissantes sont soutenues par le politique, hein, y a pas de mystère. Hein. Si vous regardez dans l'histoire de l'énergie... Aucune énergie n'a été autant subventionnée à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, que le charbon. Et puis ensuite, on a subventionné le pétrole. Et puis maintenant, donc je pense que effectivement, la question n'est pas faut-il ou non subventionner. La question est quel est le système de soutien le plus efficace de la part des pouvoirs publics. Et on sait très bien que si les systèmes de soutien ne sont pas efficaces, on risque d'aboutir à des résultats inverses de ceux qu'on vise, à savoir créer des industriels qui sont sous dépendance du soutien public, qui vont se créer des espèces de niches, et qui, le jour où la compétition s'ouvrira plus, ou le jour où les soutiens publics diminueront, car généralement hein, les poches de l'État n'ont pas une profondeur infinie, eh bien à ce moment-là, ils feront marche arrière. Vous voyez par exemple dans les énergies renouvelables, en Espagne, les stop and go avec les énergies renouvelables, c'est très mauvais.
Et alors, quelle est justement, selon vous, la bonne façon de soutenir une industrie naissante ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une solution miracle, hein, mais en tout cas, il y a quelques règles qui sont importantes. La première, c'est que quand on passe, la recherche et développement pur doit être financée dans des laboratoires publics. Très souvent, les entreprises vous expliquent qu'elles font beaucoup de recherche et développement, mais si vous regardez par exemple le téléphone portable, hein, est une agrégation d'innovations qui sont sorties à peu près toutes des laboratoires publics. Donc il faut avoir de la recherche publique forte. Ça, je pense qu'on peut dire en France qu'on n'a pas à rougir, on a cette recherche publique forte. Ensuite, il faut être capable de trouver le bon assortiment des innovations qui viennent de la recherche publique pour faire pour tester ces innovations dans des pilotes industriels. Et très généralement, on est dans des situations où les pilotes les plus efficaces mettent en jeu des acteurs qui viennent d'horizons différents. Par exemple, sur l'hydrogène, vous avez des acteurs qui viennent d'horizons très différents. Vous avez, je prends le cas de la France, des nouveaux entrants. Le prototype, c'est McPhee, hein, qui est le premier producteur d'hydrogène vert et qui est une start-up qui a démarré du reste dans le giron de la recherche publique. Hein. Donc, c'est pas tellement courant, donc j'en suis assez fier en tant que professeur dans l'enseignement public. Bon. Vous avez des acteurs qui viennent du milieu, Air Liquide, qui est un producteur historique d'hydrogène, et Air Liquide dans l'hydrogène, il a à peu près le même problème qu'au Total dans le gaz naturel, hein, c'est que il faut qu'il convertisse son savoir-faire d'hydrogène
gris vers l'hydrogène vert.
Ce qui n'est pas simple, mais il a des atouts très sérieux, notamment dans certains domaines. Bon, et puis vous avez des acteurs historiques comme Engie, comme Total, qui vient peu, et EDF également. Et puis vous avez des intégrateurs. Vous avez par exemple les sociétés, des projets comme le projet de GRT Gaz Jupiter dans le sud de la France où on met en lien des industriels pour faire quoi par exemple injecter de l'hydrogène dans le réseau de gaz. Pas si simple, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Si on fait pas attention, hein, on risque d'exploser, par exemple. Bon, mais donc on peut aujourd'hui mettre une partie d'hydrogène dans le réseau de gaz.
Mais ce que l'on voit, pardon de tout couper, Christian de Pertu, mais c'est qu'il y a de nombreuses entreprises françaises qui sont déjà très avancées sur cette technologie. Et par exemple, on peut citer Alstom, qui est à l'origine des premiers trains à hydrogène. Et pourtant, si l'on en croit le patron d'Air Liquide, Benoît Potier, la France est encore en retard sur cette technologie. Je vous propose de l'écouter. Donc Air Liquide, leader français des gaz industriels et membre du Conseil de l'hydrogène qui rassemble les grands industriels du secteur. Benoît Potier, donc le 20 septembre 2017 chez nos confrères de France Info.
La France est un peu en retard. La France, en fait, n'a pas aujourd'hui une industrie automobile qui a adopté cette technologie, contrairement au Japon, à l'Allemagne, à la Corée. Et General Motors aux États-Unis a rejoint le Conseil de l'hydrogène, donc nous avons aujourd'hui un grand constructeur américain et quelques constructeurs chinois sont très intéressés. Donc nous aurons bientôt tous les grands pays industriels qui seront avec nous au sein du Conseil de l'hydrogène. Nous avons 27 sociétés mondiales. On a chiffré, grâce à McKinsey, en fait les investissements nécessaires d'ici 2030 à peu près 500 milliards de dollars. Et on a aussi été plus loin, on a été jusqu'en 2050 et donc on a une idée aujourd'hui un petit peu plus précise de ce qui serait nécessaire d'investir, mais aussi du potentiel que pourrait représenter l'hydrogène, plus de 10% de l'énergie consommée dans le monde.
Alors voilà pour les propos du patron d'Air Liquide et du côté du gouvernement, il a été décidé d'investir 2 milliards d'euros dans la filière hydrogène, 2 milliards sur les 100 que compte le plan de relance présenté ce matin par le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que d'abord vous parliez d'un retard français et si oui, est-ce que la France peut rattraper ce retard, Christian de Pertuis ?
Alors bon, d'abord, les propos de M. Potier datent de 2017. Hein. Et effectivement, quand on est patron d'une grande entreprise, on a toujours tendance à demander des subventions supplémentaires de l'État. Donc je pense que on est un peu jugé parti, si vous voulez. Bon. La vérité, c'est que effectivement, les conditions objectives pour développer vite de l'hydrogène vert sont beaucoup moins bien réunies en France que dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, parce que nous n'avons pas suffisamment d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que nous avons de nombreuses atouts industriels et ces industriels peuvent investir sur le territoire français ou pas sur le territoire français.
Et ce qu'on constate, c'est qu'ils investissent plutôt sur le territoire allemand, en l'occurrence.
Alstom, par exemple, déploie son train en Allemagne. J'ai cru comprendre, bon, il est un peu tôt pour parler des 2 milliards du plan de relance que je n'ai pas regardé dans le détail, mais en tout cas, ce qui était dans les cartons, c'est que une partie de ces 2 milliards vont effectivement être destinés au déploiement des réseaux de transport SNCF dans les zones secondaires pour les voyageurs et sur le fret. Et là, l'hydrogène peut être une solution très intéressante. Donc, je pense que on va y arriver. Mais effectivement, la situation française est que le niveau des soutiens publics est plutôt en décalage par rapport à la capacité des industriels et que, pour une part, ces industriels vont aussi dans d'autres programmes, notamment d'autres programmes européens, voire internationaux. Par exemple, Total vient d'investir fortement en Corée dans cette filière.
Et donc ces 2 milliards, ils sont insuffisants pour vous si on les compare par exemple aux 9 milliards d'investissements dans l'hydrogène qui sont prévus en Allemagne?
La comparaison est un petit peu fausse parce que les 9 milliards de l'Allemagne portent sur 10 ans et les 2 milliards, si j'ai bien compris, portent sur 2 ans, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on peut dire.
Le compte y serait.
Ce qu'on peut dire, c'est deux choses. La première, c'est que on est en train de changer d'échelle parce que on était à 100 millions. Donc, on passe de 100 millions d'euros à 2 milliards. Bon. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas la quantité d'euros qu'on dépense, c'est l'efficacité de la dépense qui est importante. Donc, je pense que ce qui va être crucial dans les 2 années qui viennent, c'est pas de savoir si on va dépenser les 2 milliards, si on va dépenser 1,5 ou si on va dépenser 2,5. Très souvent, vous savez, on dépense pas tout ce qu'on annonce. Et vous seriez très étonné si vous regardiez la quantité de crédits possibles pour la transition énergétique et puis ce qu'on dépense ensuite. Bon. La réalité, c'est que tout va dépendre de l'efficacité. Et cette efficacité, elle repose sur la capacité des acteurs à mener des projets intégrés. Il y a 2 grands types d'intégration. Il y a une intégration de gros instruments, de gros outils industriels. Pour moi, le prototype de ce projet, c'est ce que font les Suédois avec l'acier. 3 énormes acteurs historiques, hein, un producteur d'électricité, le premier mineur qui produit du minerai de fer en Suède, parce que la Suède est le premier pays produisant du fer, et le troisième qui est un aciériste, s'allient et vont reconstituer la chaîne complète. Production, stockage et production d'hydrogène vert, stockage de l'hydrogène vert et ensuite fabrication de l'acier par réduction directe. Ça, c'est un formidable projet industriel très concentré, beaucoup d'argent public, pratiquement la moitié financée par l'agence de l'environnement suédoise. L'exemple type de projet lourd concentré comme ça, c'est par exemple le projet Jupiter à Fos-sur-Mer dont on parlait tout à l'heure. On a un énorme catalyseur qui produit de l'hydrogène vert et derrière, on teste avec des acteurs différents, GRT Gaz pour le transport, d'autres, dont le sidérurgiste avec Fos, etc. Et on teste soit la façon d'injecter cet hydrogène vert directement dans le réseau, soit de le reconvertir en méthane avec du CO2 qui est récupéré sur l'acier. Et donc ça, vous voyez, c'est des gros projets où il faut faire de l'intégration avec des gros outils industriels. C'est la priorité qui est donnée dans le plan européen et il faut absolument que nos industriels français soient capables de monter des projets de cette façon. Donc la clé, c'est pas uniquement l'argent, c'est la capacité à travailler en réseau. Et puis vous avez une autre forme d'intégration qui est l'intégration territoriale. Et l'intégration territoriale, elle ne consiste pas à construire des gros objets industriels, mais à disséminer dans une ville, sur un territoire, des différents éléments d'un puzzle qui permettent de reconstituer une filière locale d'hydrogène. Et dans cette filière locale d'hydrogène, je voudrais revenir à un de mes dadas, qui est le lien possible entre la production d'hydrogène vert et la valorisation locale de la biomasse. Car on peut produire de l'hydrogène à partir des énergies fossiles, mais on peut aussi produire de l'hydrogène vert à partir de la biomasse, soit de la biomasse énergie, du bois, soit à partir de la biomasse agricole.
Ça se fait moins, mais il faudrait le promouvoir davantage.
Nous avons des pilotes pour l'instant, et toute la question va être de savoir si, avec ce plan, on est capable de multiplier les pilotes et si ces pilotes permettent d'arriver ensuite à des phases où l'hydrogène décentralisé avec des sources de biomasse locale, agricole ou pas, serait rentable.
Mais quels sont les avantages de la production par la biomasse ?
Maximiser la valeur ajoutée du territoire. Chez mes amis des Pays du Mans, on est en train de développer un projet en lien par exemple avec les producteurs agricoles, de nouvelles cultures dédiées à la catalyse pour produire de l'hydrogène, notamment le retour du chanvre, qui est une excellente culture énergétique. Et donc là, on articule directement la valeur ajoutée agricole avec la production d'hydrogène vert. Ensuite, l'hydrogène vert, on peut l'utiliser pour faire tourner les bus au Mans, on peut l'utiliser pour des usages énergétiques, y compris dans les exploitations agricoles. Donc on a une intégration territoriale, une intégration locale. Et donc, l'avenir de la filière hydrogène, elle est à la fois sur l'intégration de gros objets industriels et sur la multiplication, la dissémination des projets d'intégration territoriale décentralisée. C'est un petit peu comme l'industrie photovoltaïque. Avec l'industrie photovoltaïque aujourd'hui, vous pouvez produire d'énormes fermes solaires qui produisent autant que l'EPR de Flamanville, si un jour il rentre en production. Et puis, vous pouvez produire de l'énergie de façon totalement décentralisée pour, par exemple, alimenter votre téléphone portable ou sur votre panneau solaire. Donc, vous voyez, cette modularité, on la retrouve dans l'économie d'hydrogène. Et ça, c'est une très grande nouveauté par rapport à nos énergies fossiles d'hier.
Concernant les transports, vous parliez de cette concurrence entre les batteries et l'hydrogène. Est-ce que vraiment il y a concurrence ? On a l'impression que ce qui se dessine, c'est que l'hydrogène se justifie davantage pour les poids lourds que pour les véhicules légers et davantage pour les trajets plus longs que pour les trajets les plus courts. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un partage ainsi du marché ?
Dans ces cas-là, on ne va pas vendre les voitures Hyundai et Toyota, si vous voulez.
Peut-être que l'avenir n'est pas dans les véhicules légers, peut-être que l'avenir de l'hydrogène n'est pas dans les véhicules légers.
Effectivement, c'est en général la segmentation qu'on a, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a commencé l'hydrogène dans les bus et dans les véhicules particuliers. Demain, on pourra étendre à d'autres objets qui circulent, par exemple des vélos, par exemple des bateaux et probablement des avions.
J'aimerais vous faire entendre à présent la voix de celui qui est en charge du Green New Deal européen, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans.
Notre stratégie est axée sur le soutien de l'hydrogène propre autant que possible et aussi rapidement que possible. C'est notre priorité. Pour accroître sa productivité, l'hydrogène réutilisable recevra un soutien important. Pour atteindre nos objectifs, nous devons créer une économie d'échelle pour permettre à l'hydrogène de dépasser son statut de marché niche. Pour y arriver, nous passerons par une phase de transition durant laquelle nous continuerons à soutenir la production d'hydrogène à faible émission, par exemple celle qui organise le captage et le stockage du carbone. Cela nous permettra aussi de dépasser l'hydrogène polluant. Nous devons agir sur les trois fronts, la production, le stockage et le transport, ainsi que l'utilisation finale. Pour cela, nous devons passer par cette phase de transition.
Que vous inspire ces propos, Christian de Pertu ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet engouement pour l'hydrogène bénéficie davantage à l'hydrogène gris ou noir ?
Tout dépend du poids relatif qu'on donne aux différents éléments. Pour ma part, je pense que la priorité absolue, c'est effectivement de produire de l'hydrogène vert et de développer, d'accélérer cette production. Pour le faire, on a besoin de beaucoup d'expérience industrielle, d'expérimentation, de pilotes. On a probablement besoin de fonds publics, mais il y a un instrument qui permettrait d'accélérer beaucoup plus rapidement cette mutation. Cet instrument, vous le connaissez ?
C'est la taxe carbone. Et justement, je voulais qu'effectivement, il reste encore du chemin pour rendre la molécule compétitive.
Voilà, absolument.
Alors, comment on fait une taxe carbone dont le poids serait réparti peut-être de façon plus égalitaire que ce qui a été fait jusque-là, Christian de Pertu ?
Alors, sans rentrer dans les détails techniques, je crois qu'on n'a plus le temps. Aujourd'hui,
un petit peu de temps.
Vous avez un système européen qui couvre les émissions du secteur industriel et donc des acteurs dont on parle, c'est le système d'échange des quotas de CO2 sur le marché européen. Ce système a très mal fonctionné dans les années 2010 jusqu'en 2019. Il fonctionne un peu moins mal, mais il développe un prix du CO2, donc un coût du CO2 pour les industriels qui est remonté à un peu au-dessus de 20 euros, mais qui a longtemps été en dessous de 10. Bon, c'est un niveau qui est trop bas et qui surtout est difficile à prévoir pour basculer.
Si on a un prix du CO2 sur le système européen d'échange de quotas, et on peut le faire techniquement, on peut mettre un prix plancher. Nous sommes, nous favorables, enfin, à la chaire économie climat, nous avons développé des études qui montrent comment on peut mettre en place un prix plancher. Et aujourd'hui, coup de chance, à la fois le président Macron et la chancelière Angela Merkel se sont prononcés pour le prix plancher. Donc on est content, mais on reste à le mettre en place. Mais ils n'ont pas dit combien il fallait. Et moi, je vais vous dire combien il faut. Si vous avez un prix du CO2 sur le système d'échange de quotas qui est de l'ordre de 70 à 75 euros la tonne de CO2, vous rendez compétitif l'hydrogène bleu, c'est-à-dire vous rendez compétitif le fait de capter et de stocker ou de réutiliser le CO2 qui est issu de des énergies fossiles. Si le prix du CO2 monte à 100 euros, très largement, vous commencez à rentabiliser l'hydrogène vert. Donc, l'objectif, c'est évidemment d'arriver rapidement à ce niveau de 100 euros la tonne de CO2.
Mais de 20 à 100 euros, effectivement, le chemin est encore long. Merci beaucoup, Christian de Pertu,
de nous avoir
éclairé sur les technologies de l'hydrogène. Je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, Le tic-tac de l'horloge climatique, une course contre la montre pour le climat, publié l'an dernier chez Debec Supérieur. Et votre prochain livre sur le Covid-19 et le réchauffement climatique sort le mois prochain, c'est bien cela?
Ça sort le début octobre et la version numérique un peu plus tôt, je crois. En tout cas, il est totalement écrit.
Parfait. Ben voilà qui, en tout cas, devrait nourrir notre réflexion pour de prochaines émissions. Un grand merci, Christian de Pertu.
Merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho, présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Parution cette rentrée de l'économie en BD de l'économiste Gisabelle Coupé-Soubéran, première du genre en France, scénarisée par une universitaire, ouvrage de vulgarisation pédagogique, mais aussi point de vue politique.
Et oui, souhaitez-vous que vos enfants aient des notions de chaîne de valeur industrielle ou de management comme le Made in Monde ou la coopétition? Eh bien, c'est l'ambition de l'économie en BD, un album au dessin clair et enfantin et très pédagogique. Il est vrai, deux pages de glossaire, quelques schémas et surtout, plutôt que des questions un peu abruptes, leur mise en scène dans des strips suivant les interrogations d'une jeune fille dont la mère est au chômage. Que fait le gouvernement contre le chômage ou pourquoi y a-t-il besoin de monnaie? Tout cela est didactique sans en avoir l'air et avec ses formules imagées pour soutenir le dessin d'Oriane Buis, Gisabelle Coupé-Soubéran poursuit ainsi avec une certaine légèreté son argumentaire en faveur d'une régulation financière. Ainsi, le cycle est un drôle d'animal à dompter, un tigre qu'on s'imagine pouvoir chevaucher sans en tomber quand ça monte, un ours qui n'en finit pas d'hiberner quand ça baisse. Il faut donc empêcher le tigre de s'emballer et réveiller l'ours. En bref, toujours aller contre le cycle.
Est-ce que c'est une vraie ambition vulgarisatrice et politique, Xavier?
Eh bien, vous savez que l'auteur de Blabla Banque ou de Parlons Banque en 30 questions l'explique dans la presse. La vulgarisation économique est une mission d'utilité sociale pour elle et démocratique. D'autant, dit-elle, qu'absolument rien dans les normes et conventions qui régissent la profession n'incite à vulgariser le savoir. Et dans le dessin de la BD, les acteurs puissants en prennent pour leur grade. Les multinationales sont d'horribles géants sans tête passant au milieu de nains de jardin que sont les nations. Et le camion de pompiers de la banque centrale ne peut qu'arroser les banques et la bourse en feu à coups de lance à billets. On n'oubliera jamais aussi le sourire carnassier du dieu du marché quand il annonce triomphant qu'il s'autorégule. Vision d'horreur.
Ça fait froid dans le dos. Et alors Gisabelle Coupé-Soubéran n'est pas la seule observatrice à s'être lancée à l'assaut des bulles financières via le monde des bulles.
Et non, puisque dans Les Aventuriers de la finance perdu en 2016, c'est Christian Chavagneux qui faisait littéralement le procès de la finance et d'un Monsieur K, double hommage à Kerviel et Kafka, où les témoins défilent pour expliquer le fonctionnement de la bourse et du trading, avec un album piquant là encore, parsemé de traders qui ne cessent de sauter de positions risquées, c'est-à-dire de toits d'immeubles pour augmenter leur bonus. Chavagneux propose là aussi plus qu'une satire, une réflexion sur le risque financier et son histoire récente, de la crise de 2008 aux pyramides de Ponzi, en passant par les LuxLeaks. Deux thèses aussi, la crise financière comme une crise sanitaire de la finance et les bonnes régulations dépendent du degré de polarisation politique. Le procès se termine d'ailleurs par la relaxe des financiers et économistes accusés, manière, comme le disait Gisabelle Coupé-Soubéran, d'ouvrir le débat démocratique.
Ouvrir le débat démocratique, c'est l'idée de toutes les bandes dessinées sur l'économie?
Prenons deux références américaines, par exemple d'abord Economics, publié en 2014, qui se veut la première histoire de l'économie en BD, en fait surtout du capitalisme. Si le comics met bien en scène l'évolution des débats théoriques à travers une galerie de portraits ou de couples, Smith-Ricardo Keynes Friedman, il se termine par un réquisitoire contre les traités commerciaux internationaux accusés de menacer les libertés individuelles, les services publics et la liberté de commerce. Rien de cela par contre si l'on prend les deux albums de L'économie en BD, autre album américain vendu avec les recommandations élogieuses des prix Nobel Jean Tirole et Eric Maskin, pas plus d'ailleurs que dans Le Capital de Marx, adapté du Japon en deux mangas. L'un est un récit d'un artisan fromager devenu industriel, l'autre une présentation des thèses de Marx et Engels. Autant de méthodes, vous le voyez, pour informer ou peut-être influer sur l'économie.
Moins d'ambition peut-être avec les séries BD sur lesquelles parient les éditeurs depuis quelque temps.
À commencer par, bien sûr, l'inoubliable Largo Winch, même si l'éditeur a pris soin de rebaptiser son héros le plus rentable de milliardaire en blue jeans de 1991 à milliardaire humaniste aujourd'hui, eh bien, les problématiques socio-économiques sont essentiellement un décor pour l'action et l'essentiel de l'explication magistrale des mécanismes financiers restera probablement dans les premiers albums. D'autres tentatives comme Trust, écrite par le financier Michel Fleuria, ou section financière de l'avocat Richard Malka, qui se dit inspiré de Joseph Stiglitz, n'ont pas connu le même succès que Largo Winch. Et pour les avatars inspirés, hein, au même dessin, à la règle et aux couleurs froides, la série de références donne IRS, ou bien les périlleuses enquêtes d'un agent du fisc américain. Déjà 20 albums, un scénariste qui comprend bien le marché, il explique la formule qui marche vraiment le mieux, c'est quand on parle de finance, et le principe du fisc, il le comprend aussi, puisque ce qu'on suit, ce n'est pas la traque d'une personne, mais de l'argent.
Pourtant, Xavier, la série commerciale n'est pas incompatible avec le souci documentaire ou politique.
Et oui, c'est justement parce qu'ils avaient identifié un trou, une absence d'offre économique en matière de BD, que leurs auteurs ont voulu créer Hedge Funds. C'est une BD sur la grande finance qui emprunte là aussi la forme du thriller au dessin froid du genre Largo Winch. Mais cette fois, la grande finance n'est pas qu'un décor. Les créateurs de la série revendiquent la même volonté pédagogique que chez Isabelle Coupé-Soubéran, par souci de précision, expliquait l'un d'eux encore dans la gestion d'actifs, mais aussi parce que sa présence empêche la BD, dit-il, d'être un pamphlet d'extrême gauche où les financiers seraient un bloc pourri. Et il poursuit, oui, la finance est motivée par l'argent car c'est leur matériel de travail. Les gens qui travaillent chez Peugeot, je pense qu'ils aiment bien les voitures. En matière de marché financier, c'est pareil, ils aiment les obligations, les actions et les montages qu'on peut faire avec. Et Tiffen, il faut le voir pour le croire.
Merci beaucoup Xavier Martin. Et on vous retrouve mardi prochain pour un nouveau journal de l'écho. Dernier titre des Hills, Baby, Let's Make It Real. Et demain, les entreprises françaises payent-elles trop d'impôts? Le débat opposera deux économistes, Nadine Levrato, directrice de recherche au CNRS, et Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.